Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Sébastien Lemay.
Bonjour à tous, bienvenue. Appel sur l'actualité lance le débat jusqu'à 9h, temps universel. Nous parlons aujourd'hui d'Ebola. Presque 27 000 malades en un peu plus d'un an d'épidémie en Afrique de l'Ouest. Plus de 11 000 morts, dont plus de 500 agents de santé. Le Libéria, lui, vient d'annoncer officiellement la fin de l'épidémie sur son territoire après 4 700 morts. Et les défis restent énormes pour le pays et pour la région en termes de santé, d'économie, en termes de prise en charge des survivants qui sont souvent stigmatisés. Il reste encore la présence du virus en Sierra Leone et en Guinée-Conakry. Alors comment réagissez-vous à l'évolution de cette crise? Comment prévenir une nouvelle catastrophe? Comment endiguer définitivement la maladie? Eh bien, vous nous rejoignez au 33 9 693 693 70 ou 09 693 2 fois 70 si vous appelez de France. En ligne avec nous, un premier auditeur, il s'agit de Benjamin. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes justement à Monrovia, la capitale du Libéria. Vous-même avez été touché personnellement par l'épidémie d'Ebola, puisque plusieurs membres de votre famille sont malheureusement décédés après avoir été atteints par le virus. Déjà, question pour vous, Benjamin, comment ressentez-vous la déclaration de la fin de l'épidémie dans votre pays, au Libéria?
Bon. Je peux dire en sorte que d'une part, il y a la joie parce qu'on remercie toutes les personnes de bonne volonté qui ont contribué, la communauté internationale et puis surtout le gouvernement libérien qui ont fait tout ce qu'il fallait pour que l'épidémie soit éradiquée ici au Libéria. C'est pas facile, on peut dire que c'est la joie et d'une part, il y a la stigmatisation et puis le regret. Bon, mais juste merci à tous ceux qui ont contribué. Là, le premier d'abord. Et en secondo, je dirais que aujourd'hui, Ebola, on peut dire que c'est la fin. Parce que on a tant souffri et jusque là, l'économie, tout le monde pleure. C'est la première fois que les gens disent que les pattes de galère au Libéria. Mais quand même, Dieu merci. On est là, il y a l'espoir.
Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous après ce qui s'est passé au sein de votre famille?
Le plus dur. Le fait que, imaginez, tu perds un membre cher de ta famille, par exemple, moi, cette personne, que les gens, on arrive à les enterrer ou à les brûler ou quoi, s'ils n'arrivent pas à voir la tombe de ces personnes, c'est un peu très dur. Mais ce qui reste clair, Dieu merci, et merci à tous les gens qui nous ont contribué à éradiquer Ebola au Libéria.
C'est vrai que ça a été un problème très très épineux au Libéria, cette décision de brûler tous les corps sans distinction, tous les cadavres pour éviter une contamination, puisqu'on sait que les corps sont extrêmement contagieux. Il y a eu néanmoins l'ouverture d'un cimetière, hein, mais c'était en décembre dernier, un cimetière qui s'appelle Disco Hill près de Monrovia. Mais pour beaucoup de personnes, ça a été très très difficile de voir les corps de leurs proches partir pour ne plus jamais les revoir. Vous avez parlé, Benjamin, de la stigmatisation. Alors que votre famille a été touchée, est-ce que justement vous ressentez encore de la peur dans votre entourage du fait que Ebola ait touché votre famille? De la peur du côté des voisins, des amis, des relations?
Franchement, il y a de la peur parce que ça crée la distance entre les relations familiales. Imaginez quelqu'un qui meurt, que tu ne peux pas partir les rendre visite, ça crée beaucoup de problèmes au sein des familles jusqu'à aujourd'hui. Il y a sept problèmes qui se posent, mais avec le temps, peut-être il y aura la réconciliation et puis on va en parler.
Voilà.
C'est très très difficile avec...
Le Libéria qui n'en a pas fini donc avec les séquelles du virus. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été en ligne depuis Monrovia et d'avoir accepté de témoigner sur l'antenne de RFI. 33 9 693 693 70. En ligne avec nous, Gérard, bonjour.
Bonjour, Sébastien.
Vous êtes à Conakry, en Guinée, la Guinée où le virus Ebola est toujours présent, mais en perte de vitesse, entre guillemets. Vous êtes humanitaire, hein, puisque vous êtes directeur de l'Organisation catholique pour la promotion humaine. Vous allez sur le terrain pour sensibiliser. Vous revenez justement de Koundara, dans le nord de la Guinée, à la frontière avec le Sénégal. Est-ce que, par exemple, en Guinée, ça a été un des problèmes soulignés, les réticences des populations vis-à-vis des traitements, vis-à-vis des équipes humanitaires, est-ce que les craintes, les réticences de la population existent encore?
Oui, Sébastien, en Guinée, la réticence a été un grand problème. D'ailleurs, c'est le fondamental qui a fait perdurer cette épidémie dans notre pays. Mais au jour d'aujourd'hui, avec l'effort conjugué de tous les acteurs sur le terrain, nous sommes en train de venir à bout de cette réticence. Nous étions, nous, à Koundara la semaine dernière. Nous sommes rentrés qu'avant-hier. Nous avons mentionné Koundara, Gaoual. Bien que dans ces côtés, il n'y a pas eu de cas confirmés, ni de cas, ni même de suspects, étant frontaliers, nous sommes partis pour la conciliation et surveiller le fonctionnement des comités villageois de veille.
Mais Gérard, comment expliquez-vous que plus d'un an après le début de l'épidémie, il y ait encore au sein de la population un peu de déni, des réticences? Comment ça s'explique une telle résistance des sentiments comme ça vis-à-vis de la réponse humanitaire?
Alors, sur le terrain, nous avons eu à constater d'abord qu'il y a la peur, mais aussi entretenu par les mauvaises informations qui sont véhiculées par-ci, par-là. Vous avez dans certaines communautés qui ont des fils qui sont à Conakry, dans la capitale, et qui appellent souvent des mauvaises informations, notamment pour leur dire, bon, ceux qui viennent vers vous, viennent avec le virus, sanitaire, ou ces agents de santé viennent pour vous empoisonner, ainsi de suite. Alors vous avez une grande réticence. Vraiment, cette communauté pense que vous venez pour les assassiner, ils pensent que vous venez pour les empoisonner. Donc vous trouvez déjà là une forte réticence. Mais qu'aujourd'hui, on s'est organisé, nous, au niveau de l'Organisation catholique pour la promotion humaine, on a d'abord essayé de mettre une commission de médiation sociale constituée de religieux, d'imams, de prêtres et de pasteurs qui sont aussi sur le terrain, qui travaillent avec le comité villageois d'éveil, avec toutes les structures engagées dans la lutte. Partout où il y a réticence, les religieux, nous en faisons usage, parce que eux, nous sommes convaincus, et les populations sont convaincues que ce n'est pas des politiciens, ce n'est pas des gens qui vont faire de la démagogie, mais ils vont leur parler des droits, et ils vont leur parler de la vérité, ils vont leur parler au nom de Dieu. Donc, ils parviennent à céder. Aujourd'hui, on a aplani beaucoup de réticences dans des endroits, mais il reste encore quelques petits postes, notamment du côté de Fourkaria et un peu quelque part à Koya, mais nous sommes en train de gagner du terrain avec l'apport des autorités qui se mènent. Tout le monde s'est donné la main. Nous sommes en train de progresser.
Merci beaucoup Gérard. Ça tombe bien, vous parliez de Fourkaria. C'est le propos de Mohamed, qui lui aussi est à Conakry. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour Sébastien.
Pour vous, justement, il faut se concentrer maintenant sur cette région de Fourkaria, où justement on trouve encore les derniers cas d'Ebola sur le territoire guinéen.
Oui Sébastien, mais tout d'abord, il faut dire que l'annonce faite par l'OMS en annonçant la fin de l'épidémie Ebola en République du Libéria a été favorablement accueillie par les citoyens guinéens. Et d'ailleurs, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a adressé une lettre de félicitations à la présidente du Libéria et à tout le peuple du Libéria. Donc, nous sommes très contents. Et d'ailleurs, c'est un moyen de motivation encore pour nous, parce qu'il faut dire que en République de Guinée, depuis près de 200 jours aujourd'hui, la région forestière qui était considérée comme l'épicentre de cette épidémie, la région forestière en a complètement fini avec l'épidémie Ebola. Et il faut aussi dire que la région forestière est aussi peuplée comme le Libéria. Donc ça a été un effort énorme. Donc c'est ma façon de féliciter les habitants de cette région. Maintenant, pour revenir à Fourkaria, Oui, il faut dire que Fore Kalia fait frontière avec la République sœur de la Sierra Leone. Donc, le mouvement des citoyens par-ci et par-là, ça nous a un peu compliqué vraiment les choses. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, la Guinée, sur l'ensemble du territoire, on a aujourd'hui 13 cas d'Ebola, c'est-à-dire 9 confirmés et 4 suspects.
Donc, vous êtes confiant donc pour une fin prochaine peut-être de l'épidémie en Guinée?
Oui, j'ai l'espoir que dans un bref délai, avec l'implication du département de la santé et le ministre, le médecin colonel Rémi Laman, qui est tout le temps sur le terrain, et vraiment avec le soutien des partenaires, j'ai l'espoir que très bientôt la Guinée va vraiment finir avec cette maladie. Mais Sébastien, il faut souligner ceci. Il faut rappeler à vos millions d'auditeurs que la Guinée a connu au total 3177 malades confirmés et de nos jours, il y a 1177 décès. Donc, cela est très important de souligner parce que, d'une manière ou d'une autre, il y a eu des efforts, mais malheureusement, on a eu des Guinéens qui ont perdu leur vie. Mais ce que nous pouvons aujourd'hui demander à la communauté internationale, c'est la reconstruction de nos structures sanitaires. Parce que la Guinée vient de loin. On a connu des structures sanitaires vraiment très précaires pendant des années. Donc, avec la maladie Ebola, c'est l'occasion pour nous, citoyens de ce pays, de lancer cet appel vraiment pressant à l'encontre de la communauté internationale, de nous venir en aide pour nous permettre vraiment d'obtenir des structures vraiment sanitaires performantes pour que, dans le futur, nous puissions non seulement prévenir ces maladies, mais aussi vraiment être en mesure vraiment d'être opérationnel sur le terrain.
Donc, reconstruire le système de santé, Mohamed, effectivement, restez en ligne avec nous parce que j'aimerais faire réagir Noé à vos propos. Noé, vous êtes à Freetown, bonjour.
Alors, bonjour, merci et bienvenue dans la capitale léonaise. Merci.
Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Mohamed, que maintenant, voilà, il faut mettre la priorité sur la reconstruction des systèmes de santé qui se sont vraiment écroulés lors de l'épidémie d'Ebola?
Voilà, exactement. Ce que vient de dire Mohamed, c'est vraiment nécessaire parce que si je prends aussi le cas de la Sierra Leone, mon pays, qui a été touché plus de 10 ans de guerre civile et que qui a perdu ses structures sanitaires, qui a perdu ses structures, beaucoup de moyens de transport ont été détruits, beaucoup de réseaux de transport ont été détruits. Alors, il faut penser automatiquement, penser à célébrer comme l'a fait le Libéria, c'est bien de décréter des journées fériées, mais nos dirigeants doivent penser également à la reconstruction des structures sanitaires, à la reconstruction des structures, parce que nous ne sommes pas de bonnes structures sanitaires. Donc, il faut immédiatement se lancer à la tâche, construire les structures sanitaires. Il ne faut pas attendre la communauté internationale, comme le dit Mohamed à Conakry, mais il faut nous-mêmes, nous devons poser les bases de cette reconstruction des structures sanitaires. Il ne faut pas toujours attendre cette communauté internationale.
Alors, justement, sur Facebook, ça réagit beaucoup sur cette question, notamment Ibrahim, qui dit qu'il est plus que temps de repenser profondément les systèmes de santé en Afrique, car c'est une honte de constater qu'en 2015, le continent est toujours incapable d'apporter une solution 100% africaine à une épidémie comme Ebola. Alomenio nous dit qu'il faut que les gouvernements des pays touchés par l'épidémie veille à ce que tous les dons financiers et matériels reçus soient bien distribués aux victimes. Noé, est-ce que vous ne craignez pas que, eh bien, à cause de crises à l'étranger comme le Népal, comme la Syrie, comme l'Irak, eh bien, la communauté internationale se désengage un petit peu des pays du fait que, voilà, Ebola, ça se calme un petit peu?
Oui, bon, la communauté internationale de se désengager du cas d'Ebola, c'est bien. Mais il faut, nous aussi, il faut pas attendre toujours, parce que c'est cette plaidoirie que moi je dis toujours à nos dirigeants africains. Il faut pas attendre toujours cette communauté internationale, parce que si cette communauté internationale vient, ils viennent avec ses propres moyens, et elle va diriger ses moyens. Donc, nous, les communautés, nous, dirigeants africains, doivent s'asseoir, mettre une plateforme, mettre un refondement du système sanitaire.
Oui, il faut que les systèmes sanitaires africains soient d'abord gérés par les Africains eux-mêmes. Merci beaucoup, Noé. Vous étiez en ligne depuis Freetown. Merci à Mohamed qui nous appelait également depuis Conakry. 339-693-693-70. Ibrahima est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Kissidougou, en région forestière dans le sud de la Guinée, dont on parlait tout à l'heure. Vous êtes également membre du comité de veille dans un quartier de Kissidougou depuis décembre dernier. Comment ça fonctionne, un comité de veille?
C'est des comités censés venir en aide aux structures proprement dites de la santé pour la sensibilisation dans les quartiers, c'est des structures de proximité pour la sensibilisation et la formation et l'alerte surtout au cas où on découvrait des cas suspects dans le quartier, on alerte automatiquement les structures sanitaires.
Alors,
et on vient apporter des conseils aux populations, comment faire pour prévenir pour se prévenir de la maladie Ebola.
Alors justement, Ibrahima, les derniers cas qu'on a recensés en Guinée-Conakry, c'était souvent des cas qui avaient échappé en fait à tout recensement de contact avec des malades. Donc il y a encore des cas qui vous échappent aujourd'hui, Ibrahima?
Non, mais dans la région forestière, comme Mohamed l'a dit, il y a plus de cas d'Ebola depuis trois mois maintenant. On parle plus d'Ebola en Guinée forestière. Et justement parce que nous sommes proches du Libéria, alors que la plupart des contaminations venaient du Libéria. Kissidougou, par exemple, la dernière flambée de l'épidémie, c'est un monsieur qui est parti au Libéria prendre l'héritage de quelqu'un qui est décédé d'Ebola là-bas. Il est venu avec ses biens-là à Kissidougou et puis tout de suite, ça a fait une explosion. Et c'est vrai qu'avec la maîtrise de l'épidémie au Libéria, ça nous a beaucoup aidé en Guinée forestière. Voilà.
Est-ce que...
Et moi, je voudrais...
Allez-y, Ibrahima.
Voilà, je voudrais juste par rapport à l'après-Ebola, les gens parlent de reconstruction des structures sanitaires. Je voudrais juste intervenir sur ce point-là parce que c'est comme si Ebola a détruit nos hôpitaux, les dispensaires. Non, moi je dis que c'est plutôt la formation des médecins et l'équipement. Parce que imaginez-vous, Ebola, le premier cas d'Ebola, c'était en décembre 2014. Il a fallu attendre le mois de mars pour déclarer officiellement l'existence de la maladie. Combien de mois? Ça veut dire qu'on n'a pas des informés, on n'a pas d'équipement pour détecter des maladies qui nous sont étrangères ou inconnues.
Mais oui, l'OMS avait d'ailleurs été pointée du doigt avec une réaction trop tardive, selon beaucoup de gens. Elle avait déclaré Ebola épidémie de portée internationale en août seulement. Donc voilà, l'OMS qui a promis de faire une réforme. D'ailleurs, une assemblée annuelle est prévue à partir du 18 mai, si je me trompe pas. Merci Ibrahima de nous avoir appelé depuis Kissidougou. En ligne à présent depuis Dakar au Sénégal, il s'agit d'Ali Matou. Bonjour Ali Matou.
Oui, bonjour Sébastien.
Quelle est votre réaction à l'évolution de l'épidémie? Vous êtes guinéenne, je le rappelle.
Bon, en fait, ma réaction, c'est une réaction assez mitigée. Je me dis aujourd'hui qu'on doit féliciter l'État libérien pour tous les efforts qui ont été faits. Mais en ce qui concerne la Guinée, ce qui est vrai, c'est que jusqu'ici, on a senti quand même des relâchements. Parce que depuis mai 2014, on a senti qu'il y avait une baisse de l'épidémie. Et à chaque fois qu'on sent qu'il y a baisse, il y a encore des flambées quelques mois après. Donc, il va falloir être très vigilant parce que là, on n'a plus droit à l'erreur. Surtout que cette épidémie-là nous a vraiment plongé dans une crise économique qui était là déjà, mais vraiment parce que on a été mis en quarantaine par plein de pays. Et pour un pays comme la Guinée, on ne peut pas se le permettre.
Oui, vous ressentez dans votre vie de tous les jours le poids de cette crise économique que vous vivez à cause d'Ebola?
Oui, on le sent, on l'a senti parce que moi j'étais récemment à Conakry, on l'a senti parce que un pays comme la Guinée, d'abord nous sommes un État assez fragile parce que nous avons connu nos premières élections démocratiques qu'en 2010 et aujourd'hui d'abord il y a une instabilité liée à nos élections. Et nous sentons par exemple qu'il y a des manifestations. J'ai entendu le porte-parole du gouvernement il n'y a pas très longtemps dire que à cause de manifestations, ils n'avaient pas pu suivre les contacts, chose qui est extrêmement grave. Je crois que
et oui, les rassemblements de population, effectivement, cette instabilité politique en Guinée. Pardon de vous couper, Ali Matou, mais on arrive à la fin de cette émission. Merci en tout cas de nous avoir appelé depuis Dakar. Il est 10h59 ici à Paris. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'Appel sur l'actualité. On parlera du Mali, puisque vendredi, un accord de paix pour le nord du pays est censé être signé à Alger. Depuis deux semaines, le cessez-le-feu est pourtant plusieurs fois violé entre armées maliennes, milices, entre Bamako et groupe rebelle. L'accord peut-il être signé dans ces conditions? Quelle solution pour que les parties s'entendent? À demain pour un nouveau débat.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Money, premier service de transfert d'argent et paiement mobile.
Dans 10 minutes, juste après le journal, vous retrouvez Priorité Santé avec Igor.